Donc je passe la parole à Geneviève Remeringer.
Alors. En 1958, il devenait de plus en plus évident que l'armée française n'arriverait pas à écraser le FLN. Le maintien de la colonisation mettait donc la bourgeoisie française face à une véritable crise politique. De plus en plus d'hommes de la bourgeoisie pensaient qu'il fallait en finir avec cette guerre. Les gouvernements de gauche s'étaient avérés incapables d'imposer une solution à l'armée et aux ultras, ces partisans de l'Algérie française. Du coup, cette solution ne pouvait venir que d'un homme de droite. Et c'est même un coup d'État militaire qui permit le retour de De Gaulle au pouvoir en mai 1958. Le 13 mai, une manifestation contre le gouvernement se transforma en prise du siège du gouvernement à Alger par les militaires. Dans la foulée, Massu, le général des paras, forma un comité de salut public. Les officiers en Algérie, à qui le gouvernement avait abandonné tous les pouvoirs, exigeaient désormais la mise en place d'un pouvoir fort qui répondent à leurs espoirs de maintien de l'Algérie française. Et les réseaux gaullistes étaient suffisamment étoffés en Algérie pour chuchoter à l'oreille de ces apprentis putschistes le nom de l'homme providentiel incarnant cet espoir. L'incapacité des politiciens apparaissait on ne peut plus clairement. Ils n'avaient aucune solution pour s'opposer à cette rébellion militaire. Alors, ils allèrent eux-mêmes chercher De Gaulle. Le 1er juin, De Gaulle s'installa à la tête de l'État. Il mit l'Assemblée en congé et gouverna par décret durant 6 mois. Cette sale guerre lui permettait d'instaurer la Ve République, un régime dans lequel l'influence politique des partis de gauche se trouva réduite et les pouvoirs du président largement accrus. De Gaulle avait été porté au pouvoir par des forces contradictoires. D'un côté, les espoirs des militaires et des ultras. De l'autre, les politiciens qui voyaient en De Gaulle une protection contre le danger de dictature militaire. Et au-dessus de tout cela, la bourgeoisie, qui cherchait à régler la question algérienne dans le sens de ses intérêts généraux, y compris contre certains intérêts particuliers. Alors fondamentalement, De Gaulle s'apprêtait à faire accepter à l'armée, aux ultras et à l'ensemble de l'appareil d'État une politique de décolonisation dont il ne voulait pas entendre parler. Mais dans un premier temps, dans toute cette confusion, il lui suffit de s'écrier du haut d'un balcon « Je vous ai compris » pour contenter momentanément tout le monde. Il commença par décoloniser le reste de l'Empire français. Le but était de former des États africains indépendants en façade, mais qui préservait l'essentiel des intérêts de la bourgeoisie française. En Algérie aussi, la bourgeoisie voulait continuer à maintenir ses intérêts économiques, en particulier au Sahara, où l'on venait de découvrir du pétrole. La guerre était perdue pour la bourgeoisie, mais les négociations dépendaient du rapport de force qui se créerait entre le FLN et l'impérialisme français. Alors, pour satisfaire les intérêts des impérialistes français, la guerre dura 4 ans de plus et fit des dizaines de milliers de victimes supplémentaires. De Gaulle commença par chercher à affaiblir la population en intensifiant encore la guerre. À partir de 1959, les déportations de paysans algériens furent plus nombreuses. Des régions entières furent évacuées et rebaptisées « zones interdites ». 2 millions de personnes furent déportées dans de véritables camps de concentration, où la misère, la faim, la soif et les maladies tuaient aussi certainement que les attaques de l'armée française. Un article du Figaro donnait cette description d'un de ces camps en 1957. Je le cite. « Il y a 1800 enfants à Bessonbourg. En ce moment, toute la population se nourrit de semoule. Chaque personne en reçoit environ 110 grammes par jour. Le lait est distribué 2 fois par semaine, moins d'un demi-litre par enfant. Aucune ration de matière grasse n'a été distribuée depuis 8 mois, pas de ration de savon depuis 1 an. Entre 1959 et 1962, les combattants algériens des maquis se retrouvèrent de plus en plus isolés, éprouvant des difficultés immenses à poursuivre le combat. Ce furent les années les plus difficiles et les plus meurtrières pour eux. De son côté, le FLN aussi se préparait aux négociations. En 1958, il forma au Caire le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, pour l'imposer comme représentant unique et légitime du peuple algérien. Dans la perspective de l'indépendance, la préoccupation principale du FLN était de construire son futur appareil d'État, c'est-à-dire avant tout son armée. Entre 1959 et 1962, alors que les combattants de l'intérieur étaient abandonnés, relégués dans leur isolement, le FLN forgea une armée dite des frontières. En 1960, c'était déjà 12 000 hommes disciplinés, encadrés, strictement contrôlés, qui stationnaient au Maroc et en Tunisie. À part de petites escarmouches, cette armée des frontières ne servit pas à combattre l'armée française, alors qu'elle était bien plus nombreuse que l'ensemble des combattants du maquis. Un des hommes qui forgea cette armée s'appelait Boumédienne. Il avait aussi participé à l'élimination des chefs militaires des maquis que le FLN estimait trop puissants ou trop autonomes. À travers ce processus, Boumédienne débutait son ascension personnelle vers le pouvoir absolu. Du côté français, de Gaulle devait faire face à l'opposition de la population européenne d'Algérie, forte d'un million de personnes. La plupart des pieds noirs étaient des petites gens. Bab El Oued, quartier populaire européen d'Alger, avait longtemps voté communiste. Leur présence en Algérie était liée à la colonisation, c'est vrai. Mais ils formaient une population relativement pauvre qui n'avait aucune volonté et aucune raison de quitter ce qui était désormais leur vie. Dans cette guerre d'Algérie, la population européenne se retrouva entre l'enclume et le marteau. Le FLN ne chercha pas à les gagner à sa cause. Son nationalisme le poussait au contraire à considérer tous les Européens comme des ennemis. Quant à la puissance coloniale, elle s'en était servie comme agent de la défense des intérêts du grand capital, en les persuadant que leur sort était lié au maintien de la colonisation française. Bien sûr, une autre politique aurait été possible. Une politique visant à renforcer les liens entre la classe ouvrière française et le peuple algérien. Pour cela, il fallait une vision du monde internationaliste, à l'opposé des choix nationalistes. Mais ni les socialistes, ni le PCA n'avaient eu cette politique. Du coup, les ultras, ceux qui braillaient au nom de l'Algérie française, finirent par représenter la seule expression politique de la population européenne en Algérie. À partir de 1959, les ultras formèrent des groupes paramilitaires paradant dans les rues en chemise kaki et brassard à croix celtique sous le regard complaisant du commandement militaire. En janvier 1960, ils érigèrent des barricades dans les rues d'Alger avec la complicité des régiments de paras. De Gaulle exigea l'obéissance de l'armée et dans son ensemble, celle-ci ne suivit pas les émeutiers. Ce premier coup de force fut un échec pour eux. Puis en décembre 1960, De Gaulle décida d'un référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Le FLN, qui voulait garder la main sur la façon dont aurait lieu l'indépendance, appela la population algérienne à manifester contre ce projet de référendum. La population algérienne pouvait enfin s'exprimer. Les manifestations furent de véritables raz-de-marée humains, des succès que le FLN lui-même n'escomptait pas, des démonstrations de force populaire. Cette intervention massive de la population fit basculer le rapport de force du côté algérien et contribua à accélérer la marche vers l'indépendance. Quand les négociations avec le FLN commencèrent, au début de l'année 1961, l'affrontement au sein de l'appareil d'État français entre De Gaulle et les tenants de l'Algérie française s'amplifia. En avril 1961, quatre généraux fomentèrent un putsch à Alger. C'était un mauvais remake du 13 mai 1958. De Gaulle appela la troupe à désobéir et à ne pas les suivre. Leur débandade fut totale. Le sort de l'Algérie française était scellé. Mais derrière le combat des nostalgiques réactionnaires de l'Empire colonial, se profilait un tout autre danger. Pour les officiers et les hommes de l'appareil d'État, qui formaient la partie la plus consciente des ultras, la situation de crise politique offrait une autre perspective. Ils en profitèrent pour chercher à créer un parti fasciste en se servant de ce million de pieds noirs dont le sort était incertain comme base sociale. Alors, après leur putsch manqué, l'OAS, l'organisation armée secrète, cette organisation fascisante, naquit donc en Algérie. Bien sûr, l'OAS recrutait chez les plus ultras des pieds noirs, mais ses ramifications en France en disaient long sur sa véritable nature. Parmi ses dirigeants, on trouvait un collaborateur de Valéry Giscard d'Estaing, qui était au ministère des Finances à cette époque, des anciens combattants, des anciens gaullistes et l'ancien gouverneur de l'Algérie, Jacques Soustelle. Plus de 1300 officiers purent être comptés comme sympathisants de l'OAS. En fait, l'OAS était une excroissance de l'état-major militaire français, une fraction de l'appareil d'État bourgeois. De mai 61 à juillet 62, l'OAS se lança dans une politique d'attentats et d'assassinats. Les habitants d'Alger ou d'Oran, pieds noirs ou algériens, vécurent dès lors dans la terreur des explosions de bombes, des fusillades en pleine rue et des exécutions. Dans cette période, l'OAS tua plus de 2000 Algériens. Cette organisation voulait créer un véritable fossé de sang entre les communautés, allant jusqu'à lancer à pleine vitesse un camion-citerne de 12 000 litres de fioul du haut des rues des quartiers populaires d'Alger, jusqu'à faire exploser des bombes dans les écoles et achever des malades dans les cliniques. Ces massacres visaient à rendre impossible la vie commune des Algériens et des pieds noirs dans une Algérie devenue algérienne. Plus ce fossé s'accentuait, plus la fuite des pieds noirs devenait inévitable au moment de l'indépendance. En fait, l'OAS prenait en otage la population européenne. Ses dirigeants politiques tablaient sur cette politique de la terre brûlée pour imposer l'exil aux pieds noirs et les transformer en une masse désespérée qu'ils pourraient alors encadrer et diriger dans une organisation fascisante une fois arrivés en France. De Gaulle et l'OAS, tout en se faisant la guerre, appartenaient à la même famille. Réprimer l'OAS, cela aurait été réprimer une partie de l'état-major, une partie de l'appareil d'État. Alors, ces dirigeants ne furent jamais véritablement inquiétés. À la fin de la guerre, ils furent presque tous acquittés ou graciés. Finalement, en France, les pieds noirs purent s'intégrer facilement, car la situation économique en 1962-1963 était favorable. Alors l'OAS disparut très vite du paysage politique français. En revanche, par la suite, on retrouva un grand nombre de ces apprentis fascistes dans les partis politiques de la bourgeoisie. Enfin, il faut souligner que c'est Mitterrand, encore lui, qui amnistia définitivement les hommes de l'OAS par une loi votée en 1982. Mais revenons à la guerre d'Algérie. En 1961, la guerre durait depuis 7 ans et on n'en voyait toujours pas la fin. En métropole, la contestation grandissait. L'UNEF, le syndicat étudiant, avait eu le courage d'appeler à un rassemblement contre la guerre sans le soutien d'aucun parti. Mais la première grande manifestation sur le territoire français fut le fait des Algériens eux-mêmes. En octobre 61, l'état d'urgence et le couvre-feu furent décrétés à Paris contre les Algériens. Alors la Fédération de France du FLN appela pour la première fois les travailleurs algériens à manifester pour protester contre le couvre-feu. Au soir du 17 octobre 1961, un flot impressionnant de travailleurs surgit des quartiers ouvriers du 18e arrondissement, des bidonvilles de Nanterre et d'ailleurs, sortir pour défier le pouvoir. Pour les travailleurs algériens, c'était une façon de manifester pour l'indépendance et ils répondirent à l'appel. Papon, Maurice Papon, était le préfet de police de Paris. C'était un ancien de Vichy, responsable de déportation de juifs vers les camps d'extermination nazis. En octobre 61, il donna carte blanche à la police pour massacrer. La terreur dura toute la nuit et le nombre de morts, toujours pas connu aujourd'hui, est estimé à 200 au moins. Je cite une nouvelle fois nos camarades de Voix ouvrière dans un article intitulé « Pour qui sonne le glas » du 23 octobre 61. Traqués, torturés, assassinés, les Algériens savent qu'ils gagneront l'indépendance pour laquelle ils se battent depuis 7 années entières. Et la dignité qui s'attache à l'indépendance, ils l'ont déjà gagnée dans le combat. Pour ceux qui aiment mieux ignorer que l'on tue et que l'on torture en Algérie, qu'en France, l'on arrête et l'on torture dans nos commissariats de quartier, il a été désagréable de se voir rappeler ouvertement une telle vérité. Pourtant, spontanément, des actes de solidarité eurent lieu. Mardi soir, lorsque les agents tirèrent dans la masse des Algériens qui avançaient boulevard Bonne Nouvelle, ce sont des passants qui s'occupèrent des blessés. Vendredi, à Sainte-Anne, hôpital psychiatrique, où furent enfermées les Algériennes arrêtées lors des manifestations, ces dernières purent s'enfuir grâce à la complicité du personnel hospitalier. Mais il ne s'agissait que de réactions individuelles. Alors que les travailleurs algériens sont assassinés, que 11 500 d'entre eux ont été internés à Coubertin, au Palais des Sports, qu'ont fait les organisations syndicales ? S'exclamaient nos camarades. La réponse était encore une fois dramatiquement simple. Rien. La première manifestation décidée par les grands partis de gauche en France eut lieu le 8 février 62, 7 ans et demi après le début de cette sale guerre, alors que De Gaulle avait déjà entamé les négociations avec le FLN. Cette manifestation répondait à un attentat de l'OAS la veille à Paris qui avait défiguré une fillette. Elle était appelée par le PCF, le PSU, la CGT et l'UNEF. La police chargea et fit 8 morts au métro Charonne. Quelques jours plus tard, une manifestation monstre accompagna l'enterrement des victimes de Charonne. Certes, la population montrait tout son écœurement de la guerre, mais ces gestes tardifs des dirigeants de gauche ne pouvaient faire oublier leur politique. La guerre d'Algérie a engendré une succession de crises politiques qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Des soldats qui refusent de partir à la guerre, des officiers qui créent un comité de salut public et menacent d'un putsch, De Gaulle qui appelle les troupes à ne pas obéir aux officiers, la répression inouïe d'une manifestation, la création de l'OAS. Chacune de ces crises aurait mérité une solution ouvrière, une réponse de la part des partis ouvriers. Mais c'est l'inverse qui se produisit. Non seulement ces partis ne combattirent pas la guerre, mais comble du comble. À partir de 1958, à chaque crise, ils se contentèrent d'appeler à manifester, ce qui revenait finalement à soutenir la politique de De Gaulle. Ainsi, cet homme de droite put s'appuyer sur les organisations du mouvement ouvrier pour mener sa politique. La trahison était totale. La classe ouvrière française n'a pas eu les moyens d'imposer l'indépendance de l'Algérie à sa propre bourgeoisie. Elle le paya par la persistance durant de nombreuses années d'un profond sentiment d'impuissance dans les rangs ouvriers. Et en plus, l'expérience démoralisante et dévastatrice de la guerre d'Algérie a été le terreau sur lequel le racisme s'est développé durant les décennies suivantes en France. Le 19 mars 1962, enfin, le cessez-le-feu fut annoncé. Le soulagement fut immense parmi la population et parmi les soldats du contingent. La guerre d'Algérie s'arrêtait enfin. Si on connaît le nombre de soldats français morts durant cette guerre, 25 000, on ne connaît pas avec exactitude le nombre de morts algériens. La puissance coloniale française ne s'embarrassa pas à les compter. Elle ne comptait déjà pas les vivants, alors les morts. Les historiens estiment que 150 000 maquisards sont morts au combat, soit un homme sur deux monté au maquis. À cela, il faut ajouter 300 à 500 000 morts parmi les civils algériens. Ce sont les paysans, les ouvriers, les pauvres en Algérie qui ont payé de leur vie et par des sacrifices inouïs cette lutte contre une des armées les plus puissantes du monde. L'indépendance enfin effective le 5 juillet 1962, représentait une grande victoire pour la population. Après 8 ans de guerre, elle avait vaincu son oppresseur, l'armée et l'État de la bourgeoisie française. Mais cette victoire a eu lieu sous la direction d'une organisation nationaliste bourgeoise, une organisation dont la préoccupation n'était pas la défense des intérêts des masses pauvres. Alors, dès le début, la mise en place du pouvoir algérien allait décevoir la population. Qui, parmi les dirigeants du FLN, allait prendre le pouvoir? La question n'était pas tranchée en 1962. Les affrontements entre eux avaient été nombreux durant la guerre, se soldant même souvent par des assassinats, mais ces conflits étaient restés cachés. À l'été 62, ils éclatèrent au grand jour et prirent une tournure tragique. Dans les premiers jours de juillet 62, le gouvernement provisoire algérien, le GPRA, arriva à Alger et s'installa au pouvoir. Pendant ce temps, à Tlemcen, une ville de l'ouest du pays, Ben Bella et d'autres dirigeants du FLN formèrent un contre-pouvoir. La lutte pour le pouvoir se transforma en conflit armé violent entre les différentes factions du FLN. Mais en août 1962, au cri de « 7 ans, ça suffit », les Algériens descendirent en masse dans la rue pour dénoncer ces affrontements violents et la terreur qui régnait dans le pays. L'intervention politique spontanée de la population fit peur à tous les dirigeants du FLN. Ils ne voulaient surtout pas qu'elle arrache un droit de regard sur le nouveau régime. Alors finalement, c'est l'armée des frontières qui décida du sort de l'Algérie. Cette armée, dirigée par Boumédienne, appuya le groupe de Tlemcen. En septembre 62, les chars de cette armée entrèrent dans Alger et permirent à Ben Bella de prendre le pouvoir. Les combats militaires avaient duré 2 mois et fait de 2 à 3 000 morts supplémentaires. Le clan de Ben Bella avait donc renversé ses adversaires. Les élections à l'Assemblée constituante, qui eurent lieu juste après, se firent avec une liste de candidats uniques dont les opposants avaient été éliminés. Ben Bella forma un gouvernement dans lequel aucun dirigeant du GPRA ne siégeait. Il y avait en revanche 5 militaires de l'armée des frontières, dont Boumédienne lui-même. Ce ne furent même pas les combattants des maquis, les militants de base, qui imposèrent leur pouvoir et leurs représentants. En décembre 1962, le PCA, reformé depuis juillet 62, fut de nouveau interdit. Après lui, les autres partis furent éliminés un à un. Même les organisations très liées au FLN furent dissoutes ou contrôlées sévèrement. La centrale syndicale algérienne, l'UGTA, fut mise au pas, car même dirigée par des membres du FLN, en tant qu'organisation ouvrière, elle représentait un danger potentiel pour le pouvoir. Les dirigeants du FLN qui s'opposèrent à Ben Bella furent pourchassés, arrêtés et durent souvent s'enfuir en exil. Dans les premières années de l'indépendance, l'Algérie voyait donc naître un pouvoir dictatorial. Mais le problème des hommes au pouvoir n'était pas seulement d'éliminer les opposants. Le problème était plus profond. Durant les années précédentes, les masses algériennes avaient mené la lutte pour leur émancipation. C'est grâce à leur lutte, à leur énergie, que les dirigeants du FLN avaient accédé au pouvoir. Ils savaient, ces dirigeants, pertinemment, que les masses entrées en action pouvaient tout bouleverser et ouvrir bien des possibilités. Les manifestations spontanées d'août 62 l'avaient encore montré. Alors, ils se méfiaient. D'ailleurs, dans leur lutte acharnée pour le pouvoir, ils ne firent jamais appel aux masses. La peur des masses algériennes était d'autant plus forte que rien ne disait qu'elles accepteraient facilement que la misère persiste, que l'indépendance ne rime pas avec la fin de l'exploitation. Car au lendemain de l'indépendance, la situation de l'Algérie était catastrophique. 700 000 pieds noirs qui représentaient l'immense majorité des cadres de l'administration, des médecins, des hôpitaux, des techniciens dans l'industrie et l'agriculture avaient fui le pays. Toute l'économie était désorganisée. À cela s'ajoutaient les saccages d'une guerre qui s'était éternisée et qui avait saigné le peuple. En 62, 3 millions d'Algériens se retrouvaient dans une extrême pauvreté. La première réaction des dirigeants du FLN ne fut pas de remettre le pays en route, mais plutôt de se livrer à une véritable curée sur les biens abandonnés par les pieds noirs, les accaparant au détriment de la collectivité. En revanche, la population chercha à faire face à la désorganisation avec les moyens du bord. Elle se mit au travail comme elle put pour relever le pays de ses années de guerre et de colonisation. Dans bien des endroits, elle commença à gérer collectivement les entreprises et les fermes abandonnées par les pieds noirs. La population prenait des initiatives dans de nombreux domaines. Face à cette situation, le pouvoir de Ben Bella promulgua des décrets sur l'autogestion. Mais derrière ce mot, il ne s'agissait pas de donner à la population le moindre droit de décider de l'organisation de l'économie. Ces décrets visaient, au contraire, à une reprise en main de l'économie par le pouvoir. Peu à peu, les dirigeants du FLN formèrent une nouvelle administration. Derrière ce que le pouvoir baptisa des organes d'autogestion, il y avait des gestionnaires, mais nommés par l'État, qui reprirent en main les fermes et les entreprises contrôlées par la collectivité. Cette période Ben Bella, qui mit l'autogestion en avant, fut présentée par bien des militants tiers-mondistes, et même autres, comme une forme de socialisme. Ces militants, à la suite de Frantz Fanon ou autres Che Guevara, avaient théorisé que la paysannerie, en menant la lutte anticoloniale, était la nouvelle classe révolutionnaire. Dans la suite de ce raisonnement, ils expliquaient que les pays du tiers-monde pouvaient se développer économiquement en dehors de l'impérialisme et accéder au socialisme par leurs propres moyens. Mais en soutenant les régimes qui se mettaient en place, comme celui de l'Algérie, ils apportaient finalement une caution politique aux nationalistes bourgeois. Car dans le cadre d'un monde impérialiste, où toute l'économie est organisée pour satisfaire les intérêts des trusts et des métropoles occidentales, le développement indépendant d'un pays pauvre est une illusion. L'économie de l'Algérie avait été déformée par les 132 ans de colonisation. Elle était entièrement dominée par les besoins du marché français. Et la bourgeoisie avait tout fait pour maintenir la dépendance économique du pays. Grâce aux accords d'Évian, ceux qui avaient abouti à l'indépendance, les sociétés françaises avaient pu garder la main mise sur l'exploitation, le raffinage et le transport du pétrole du Sahara. De plus, la France pouvait continuer à étrangler ce nouveau pays dont les ressources en hydrocarbures constituaient la seule richesse en imposant que le pétrole algérien soit payé en francs et à des prix très bas. En 1963, les compagnies pétrolières françaises empochèrent trois fois plus de bénéfices que l'État algérien lui-même. Outre le pétrole et le gaz, la majorité des industries, des mines, restaient sous contrôle français. La France restait le premier fournisseur de l'Algérie pour l'acier, l'aluminium, les produits laitiers, les oléagineux et les céréales. Autrement dit, la France continuait à faire des profits conséquents sur le dos de la population algérienne. L'indépendance politique de l'Algérie n'allait pas signifier la fin de l'exploitation capitaliste et de la misère pour les masses pauvres. Le pouvoir se préparait donc à gouverner contre elles pour leur faire accepter des sacrifices. Dans un premier temps, aux paysans sans terre et aux chômeurs, on répondit par des paroles socialistes et des promesses non tenues. Mais les manifestations de chômeurs, les émeutes et les rébellions d'unités militaires se poursuivaient, nécessitant une intervention de plus en plus violente des forces de répression, c'est-à-dire de l'armée. À partir de 1962, le rôle de l'armée ne fit que s'accroître. En parallèle, les masses algériennes finirent par se sentir découragées et par se démobiliser. La bourgeoisie algérienne, elle, était trop faible économiquement et socialement pour pouvoir diriger le pays autrement qu'avec l'appui de l'armée. La mise en place d'une dictature militaire était donc inscrite dans toute l'histoire du FLN. Alors, en 1965, le processus aboutit au renversement de Ben Bella par Boumédienne, le chef de l'armée. Ce coup d'État eut lieu sans rencontrer quasiment d'opposition. À partir de cette date, c'est définitivement l'armée qui dirigea le pays et cela n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie de Boumédienne, tout en étant une dictature militaire, reprit les mêmes poses socialisantes que Ben Bella, d'autant plus que le régime connaissait toujours de multiples conflits avec l'ancienne puissance coloniale. Au début des années 70, la France refusait par exemple de payer les 25 milliards de francs de taxes qu'elle devait au pouvoir algérien. Elle refusa aussi de relever les tarifs du pétrole. Alors, en 1971, le pouvoir algérien nationalisa des entreprises pétrolières et des banques. Cela apparut comme une mesure radicale à certains tiers-mondistes. Mais même avec ces nationalisations, l'Algérie continua à produire pour le marché mondial et donc à en dépendre. Pourtant, avec le premier choc pétrolier de 1973, les prix du pétrole et du gaz flambèrent et les rentrées en devises explosèrent pour l'Algérie. Dans un premier temps, cette économie de rente améliora le sort d'une partie de la population. Ce furent bien entendu les capitalistes algériens et les privilégiés du régime qui en profitèrent le plus, mais toute la population connut aussi une élévation de son niveau de vie. Forte de ces nouvelles ressources, l'Algérie de Boumédienne se lança dans des investissements industriels. Ou plus exactement, le pouvoir emprunta des milliards aux banques françaises. Le pouvoir algérien utilisait ses prêts pour signer des contrats avec les capitalistes français, du béton, de l'acier et d'autres. L'Algérie devenait un eldorado pour les groupes capitalistes français. En fait, malgré les exportations d'hydrocarbures en hausse, le pays s'endettait cruellement. Loin de sortir de la dépendance économique, il s'y enfonçait irrémédiablement. Ses rentrées en devises, basées sur les hydrocarbures, continuaient à tresser le nœud coulant qui allait étrangler l'Algérie quelques années plus tard. Dès le début des années 80, la crise économique mondiale frappa l'Algérie et les prix des hydrocarbures chutèrent. Les recettes de l'Algérie diminuèrent donc de 40%. Pour la population pauvre, cela se traduisit par une baisse drastique des aides alimentaires, un chômage endémique et une chute du niveau de vie. De nombreuses révoltes explosèrent dans les années 80, comme celle des étudiants en Kabylie. Les grèves se multiplièrent, car la jeune classe ouvrière, qui avait surgi de ces années de développement industriel, était combative. Le régime algérien fut confronté à une montée des contestations et des révoltes. Dans ce contexte, il chercha un appui du côté des religieux. En 1984, un code de la famille était instauré qui faisait des femmes des mineures dans la société et donnait tous les droits au mari. Cette politique allait aider à renforcer le courant islamiste. En 1988, après 25 ans d'indépendance, la jeunesse algérienne descendit dans la rue et s'en prit directement au régime. Tous les symboles du pouvoir, du FLN, de l'enrichissement de cette classe privilégiée qui avait vécu sur le dos de la population depuis des années, furent attaqués. L'armée riposta et fit entre 500 et 1000 morts, sans parler des disparus et des torturés. Mais le régime dut céder face à cette explosion sociale. Il dut autoriser les partis politiques, libéraliser la presse. Un vent de liberté politique souffla sur l'Algérie. Mais la crise restait là, et les masses populaires connaissaient la même misère. Alors, ce sont les islamistes qui en profitèrent le plus, et qui se retrouvèrent sur le devant de la scène après 1988. En quelques années, ils devinrent même des concurrents sérieux de l'armée pour le pouvoir. À partir de 1992, cette situation aboutit à des conflits armés entre les organisations islamistes et l'armée. Mais c'est surtout aux classes populaires que les uns et les autres ont fait la guerre. Car il n'y a pas que les islamistes qui assassinèrent des civils. Bien des fois, l'armée en fit autant. Ces années de guerre civile et de terrorisme se sont soldées par un recul terrible de la société algérienne, pour les femmes, pour les ouvriers, pour tout le monde. L'armée garda finalement le pouvoir. Elle trouva aussi un compromis avec les notables islamistes qui intégrèrent l'appareil d'État. Cela mit fin à cette guerre civile et à cette terreur. En revanche, ce qui n'a pas pris fin, c'est la guerre économique et sociale contre les classes populaires. Durant toute cette période, la pression de l'impérialisme s'est accentuée. Depuis 1991, les privatisations ont touché tous les secteurs, permettant aux trusts capitalistes de continuer à s'enrichir sur le dos de cette population. Les investissements français en Algérie se sont multipliés. En 2008, par exemple, Sarkozy est allé signer pour 5 milliards de contrats en Algérie. Total, Gaz de France, Alstom et d'autres y trouvèrent leur compte. Et le régime actuel, présidé par Bouteflika, un homme qui fut proche de Boumédienne, poursuit la politique qui consiste à faire payer à la population les frais de la domination impérialiste. Il protège aussi la bourgeoisie algérienne qui continue à prospérer, même si c'est dans la discrétion. Mais la classe ouvrière algérienne ne se laisse pas attaquer sans réagir. Après des décennies de dictature militaire, après une guerre civile particulièrement meurtrière, elle retrouve une certaine combativité aujourd'hui. Des grèves éclatent régulièrement dans le pays, contre les licenciements ou pour des augmentations de salaire. Il y a aussi des émeutes contre la flambée des prix. Et quand les travailleurs se battent, ils arrivent bien souvent à faire reculer le pouvoir ou les directions d'entreprises qui font des concessions, parce qu'ils ont peur. Ce qui est peut-être le signe d'un changement de rapport des forces. En Algérie, pour l'instant, les luttes de la classe ouvrière ont lieu uniquement sur le terrain économique. Mais après 50 ans de dictature, cela représente quand même un espoir, une force. La classe ouvrière reprend contact avec les traditions de la lutte de classe et cela constitue le terrain sur lequel une prise de conscience de ses intérêts, y compris politiques, peut avoir lieu. Durant la guerre d'Algérie, les classes populaires algériennes ont fait preuve d'un héroïsme immense. Elles ont arraché à l'impérialisme français leur indépendance et montré leur capacité à défendre leur dignité. Mais elles n'ont pas gagné leur émancipation sociale dans ce combat, alors que cette lutte pour leurs propres intérêts n'aurait certainement pas nécessité des sacrifices plus grands. Le FLN a mené la lutte de façon à empêcher les opprimés d'Algérie de prendre conscience de leur force. Un parti communiste révolutionnaire en Algérie aurait pu porter une toute autre perspective, que les classes populaires algériennes, ouvriers et paysans pauvres, mènent la lutte massivement avec leurs armes de classe, les grèves, les manifestations, des organisations militaires contrôlées par les travailleurs eux-mêmes, qu'elles mènent la lutte contre l'oppression coloniale et contre toutes les forces sociales de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie algérienne qui voulaient construire leur propre État national pour s'enrichir. Enfin, des révolutionnaires prolétariens auraient cherché à unifier la lutte des classes populaires algériennes à celle de leurs frères du Maroc et de la Tunisie. Ainsi, au moins, un Maghreb uni aurait pu résister plus facilement à l'impérialisme français qui a continué à écraser et à exploiter ces pays après l'indépendance. Mais l'histoire de cet impérialisme, des débuts de la colonisation jusqu'à aujourd'hui, continue à lier le sort des prolétaires en Algérie et en France. Depuis plus d'un siècle, c'est une histoire souvent commune, souvent parallèle, qui lie les deux classes ouvrières, y compris dans ses échecs. Ici même en France, Les travailleurs français et algériens forment une seule classe ouvrière et combattent côte à côte les mêmes patrons dans les mêmes usines. Alors, il nous reste à continuer à écrire cette histoire commune à travers nos luttes pour combattre et vaincre notre ennemi commun, l'impérialisme français. En prenant conscience que le plus important pour vaincre, ce n'est pas notre appartenance sociale, mais notre appartenance commune à la classe ouvrière, la seule classe sociale capable de renverser le vieux monde.